Radio Prague, les informations.
Après les frères Machine, Milan Paumer a aussi été décoré. La République tchèque exprime ses inquiétudes sur la situation en Arménie. Et en sport, Lukáš Bauer, premier tchèque vainqueur de la Coupe du Monde de ski de fond. Mirek Topolánek a remis ce mardi la médaille du Premier ministre à Milan Paumer, engagé aux côtés des frères Machine dans la résistance anticommuniste des années 50. Les deux frères, qui dans leur fuite avaient causé la mort de 6 personnes, ont été décorés de la même médaille par Mirek Topolánek lors de son récent déplacement à Washington. Cette initiative avait suscité le débat en République tchèque. Le Premier ministre a pour sa part déclaré qu'il espérait que cette distinction mènerait à une réflexion nationale sur la résistance anticommuniste et sur la réconciliation avec le passé. De concert avec la communauté internationale, la République tchèque a exprimé ses inquiétudes sur la situation actuelle en Arménie. Après les manifestations qui ont dégénéré suite à l'élection présidentielle contestée par une partie de la population, l'état d'urgence a été déclaré dans la capitale Yerevan ce week-end. La diplomatie tchèque a, dans un communiqué, rappelé que la libre expression des opinions faisait partie intégrante de toute démocratie et a condamné le recours à la violence contre des manifestations pacifiques. La République tchèque a également appelé les autorités arménienne à empêcher les violences et à libérer les personnes arrêtées. Dans la nuit de lundi à mardi, le président Václav Klaus est intervenu sur la chaîne de télévision américaine CNN dans le cadre d'une interview donnée en marge de la conférence internationale organisée par l'Institut conservateur Heartland Institute. Il a déclaré que la climatologie ne devrait pas être la seule science chargée d'étudier les changements climatiques, mais que les sciences sociales devraient y être intégrées. La conférence réunit essentiellement des personnes sceptiques sur l'influence et le rôle de l'homme sur les changements du climat. Lundi, le député Eugène Snikili a été exclu du Parti social-démocrate au cours de la réunion de l'organisation locale du CSSD dans la ville de Narchot. Le député avait voté pour le président réélu, Václav Klaus, contre l'avis de son parti lors de la récente élection présidentielle. Evgen Snitili a fait savoir qu'il respecterait la décision de son parti d'origine et ne ferait pas appel. Il semblerait toutefois qu'Evgen Snitili ne soit pas déchu de son mandat de député. En sport, Lukáš Bauer est définitivement le vainqueur de la Coupe du Monde de ski de fond, devenant ainsi le premier Tchèque à remporter ce titre. L'Allemand René Sommerfeld, classé en deuxième position, a en effet déclaré qu'il n'avait pas l'intention de participer au sprint classique de mercredi au Danemark. Cette défection fait de Bauer le vainqueur incontesté du championnat. Jusqu'au 13 avril, une exposition propose d'explorer l'héritage du cubisme tchèque sur l'art contemporain, montée par Václav Magid. L'exposition se trouve dans l'hôtel de ville de la vieille ville de Prague. Le commissaire de l'exposition s'est concentré sur des œuvres nouant avec l'aspect visuel de l'œuvre d'art, ainsi que sur des œuvres évoquant clairement l'esthétique cubiste. En météo, enfin pour finir, le temps restera couvert et les températures fraîches pendant la journée de mercredi avec 5 degrés pour les maximales. Attention aux températures en dessous de zéro dans la nuit de mardi à mercredi. Nous fêterons les Casimirs en République tchèque. Le journal de Radio Prague vous a été présenté par Anna Kubišta.
Faits et événements en République tchèque. Alena Gebertova.
Les représentants politiques tchèques adressent leurs félicitations au nouveau président russe Dmitri Medvedev. Sinon, leurs réactions à ce changement tout à fait prévisible au Kremlin sont assez laconiques et réticentes. Nous en parlerons dans ce programme, cédant place également aux voix de certains commentateurs. Les autorités tchèques semblent porter un regard nouveau sur la marijuana et sur ses effets de guérison. Voilà un autre thème d'actualité que nous allons retenir. Et avant de vous dire quelques mots au sujet de la prochaine programmation intéressante du Théâtre National, la première scène théâtrale de Prague, au menu de laquelle des titres français ne manqueront pas, nous vous présenterons un fait divers hors du commun qui vient de défrayer la chronique. Une jeune femme a été indemnisée en vertu d'une plainte portée contre un hôpital qui avait gâché son interruption de grossesse, suite à quoi l'un des deux jumeaux, une fille dont elle était enceinte, est née en dépit de la volonté de la mère. La petite fille est aujourd'hui âgée de 8 ans. Les représentants politiques tchèques ont adressé des messages de félicitations au nouveau président russe Dmitri Medvedev, certains ayant exprimé des réticences prudentes au sujet du déroulement de l'élection. Je suis heureux de pouvoir constater que les relations entre la Fédération russe et la République tchèque ont atteint au cours des dernières années un bon niveau. C'est ce que l'on peut lire dans le message adressé à Dmitri Medvedev par le président tchèque Václav Klaus, actuellement en visite aux États-Unis. Celui-ci met également en relief l'intérêt de la Tchéquie d'approfondir et d'améliorer la coopération mutuelle dans tous les domaines. Le premier ministre tchèque estime pour sa part que Dmitri Medvedev a remporté une victoire marquante, obtenant plus de 70% des voix. Et tout en déplorant certains aspects de la campagne électorale, Mirek Topolánek constate que la Fédération russe est un pays ami, censé poursuivre les réformes démocratiques. Le ministère des Affaires étrangères considère la Russie comme un important partenaire commercial et espère développer les bons rapports entre les deux pays. Il exprime en outre quelques réserves s'agissant de la conduite de la campagne électorale et de l'attitude à l'égard des observateurs étrangers. La presse nationale informe assez largement de l'élection du nouveau président russe et s'interroge sur ses différents contextes et impacts. Le tandem au Kremlin titre le quotidien Gospodarské noviny pour dire que Vladimir Poutine, tout en ayant terminé son mandat présidentiel, continue d'être responsable de l'évolution future de la Russie. Une lutte de pouvoir n'apporterait pas la stabilité et les réformes, mais la stagnation, constate l'auteur de l'article. Les médias informent également des récentes émeutes à Moscou, faisant remarquer le manque d'homogénéité au sein de l'opposition russe, qui est loin de parler d'une seule voix. Le journal Lidové Noviny écrit qu'en dépit du fait qu'une partie des formalités démocratiques ait été respectée lors de l'élection présidentielle, la Russie demeure un pays avec une démocratie limitée et une liberté de plus en plus restreinte. Ainsi, elle ressemble dangereusement à l'Union soviétique, bien qu'elle laisse encore à ses citoyens la plupart des libertés individuelles et économiques. Fin de citation. En conclusion, l'auteur de l'article met quelques parallèles entre la situation en Russie et celle en Tchéquie. Il écrit « Tout comme les Russes, nous avons tendance à négliger les insuffisances de la démocratie. Mais plus nous acceptons sa détérioration, plus difficile sera le retour. Avoir le droit de vote ne suffit pas. Même si l'on ne se fait pas encore battre à Prague par la police, si l'on veut crier la Tchéquie sans Klaus. » 80 000 couronnes, c'est le montant des dommages-intérêts qu'une femme de 26 ans obtiendra pour la naissance de sa fille venue au monde sans handicap quelconque. La mère sera indemnisée parce que son enfant est né à la suite d'une interruption de grossesse ratée. Yarka Gisublova vous dira en plus sur cette affaire sans précédent qui bouleverse la société.
La femme, qui veut garder son anonymat, a porté plainte contre l'hôpital de Jihlava pour lui avoir pratiqué une interruption volontaire de grossesse ratée. La femme attendait des jumeaux, mais un des deux fœtus n'a pas été enlevé et la grossesse a débouché sous la naissance d'une fille. Cela s'est passé il y a 8 ans. La mère, qui avait alors 18 ans, explique qu'elle était en situation personnelle et sociale difficile et que la grossesse la stressait énormément. Psychologiquement, c'est difficile à exprimer, j'ai été sans moyens et cela m'a empêché de continuer mes études. La femme a porté plainte contre l'hôpital aussitôt après la naissance de la fille en demandant un dédommagement de 400 000 couronnes pour les revenus dont elle a été privée en rapport avec le congé de maternité imprévu. Selon son avocat, il ne faut pas mettre en relation la demande de dédommagement de sa cliente avec sa fille qu'elle aime. Aujourd'hui, elle est mère de 3 enfants et son cas devrait être un enseignement pour les médecins. Vendredi dernier, à l'issue de 8 ans de procès, le tribunal de Brno a rendu le jugement qui ne donne que partiellement suite à la demande de la partie plaignante. Le juge Michal Ryska explique les raisons pour lesquelles la somme de 400 000 couronnes demandées a été réduite à 80 000.
La reconnaissance de cette somme serait une insulte à tous ceux qui ont perdu une personne proche et qui n'ont pas eu droit à un dédommagement supérieur à 240 000 couronnes, le montant de la somme considérée comme légitime.
La question fondamentale qui s'est posée lors du procès, comment la mère veut-elle expliquer à sa fille qu'elle a demandé un dédommagement pour sa naissance? Les psychologues formulent de sérieuses inquiétudes. Ce sera un choc pour la fille qui, tôt ou tard, apprendra la vérité, ce qui risque de troubler son rapport envers sa mère et la confiance réciproque. Václava Masákova, psychologue clinicienne pour enfants. Le problème est que la mère déclare publiquement que son enfant est un enfant non voulu. Ce cas est sans précédent dans l'histoire judiciaire tchèque et Michal Ryška, qui a prononcé le verdict, n'a pas trouvé d'équivalent à l'échelle européenne. Pour Rostislav Nesnida, directeur du Centre pour la famille, la décision de porter plainte pour la naissance de l'enfant est amorale et constitue un précédent alarmant dans une situation où les plaintes contre les hôpitaux se multiplient. Quant à la mère de la fille non voulue, elle pense lui dire la vérité quand elle sera plus âgée en temps opportun. Les psychologues doutent toutefois qu'une telle opportunité se présente vraiment.
La Cour suprême a rendu un verdict qui pourrait bien devenir un précédent. La culture de plants de cannabis n'est pas considérée comme la fabrication de stupéfiants. Un sujet qui fait la première page du quotidien Lidovenoviny et que vous présente Alain Slivinski.
La Cour suprême a rendu ce verdict le 30 janvier déjà dans l'affaire d'une dame âgée qui cultivait du cannabis pour ses besoins personnels à des fins médicales. Elle souffrait d'un ulcère de l'estomac et de douleurs aux pieds. En vertu du code pénal qui condamne même la culture du cannabis, elle a été poursuivie en justice et la police a confisqué ses plants par deux fois. Alors que la dame s'est défendue en affirmant qu'elle utilisait le cannabis seulement pour se soigner, elle a été reconnue coupable par la Cour de justice régionale, bien que cette dernière n'ait pas démontré qu'il s'agissait de la fabrication de stupéfiants. C'est ce que la Cour suprême présente comme argument et affirme encore que la conduite de la dame ne représentait vraiment qu'un faible danger pour la société et qu'il était inutile de la criminaliser. Comme le mentionne le quotidien Lidovenoviny dans son article, l'Arfer a donc été renvoyée à la Cour régionale qui doit respecter le verdict et les recommandations de la Cour suprême. Ce n'est pas vraiment un précédent puisque cette Cour a déjà rendu un pareil verdict dans le passé. Pourtant, sa décision va dans le sens du projet d'amendement du code pénal adopté par le gouvernement en décembre dernier. Celui-ci compte différencier les drogues en dures et douces. Cela veut dire que les peines encourues pour la détention de cannabis pourraient être bien moins élevées que pour la détention d'héroïne. Les tribunaux pourraient aussi s'appuyer sur une juridiction plus complaisante pour la culture du cannabis à des fins médicales et aller ainsi dans le sens du verdict de la Cour suprême. Le problème est urgent, comme le démontrent les statistiques de la police. 366 personnes ont été accusées de détention illégale de cannabis en 2006, alors que leur nombre s'élevait déjà à 474, rien que pour les 9 premiers mois de 2007. Le projet d'amendement au code pénal pourrait être adopté avant la fin de l'année. Comme dans d'autres pays, la discussion va bon train en ce qui concerne la légalisation pure et simple des drogues douces, dont le cannabis fait partie. En Tchéquie, les milieux parlementaires parlent surtout de la décriminalisation de la culture de plants de cannabis. Par contre, le problème de la consommation se révèle plus grave. En effet, les jeunes Tchèques sont parmi les plus importants consommateurs de cannabis en Europe. Selon les informations publiées par le Centre de contrôle européen, 28% des Tchèques de moins de 24 ans ont en effet fumé du cannabis en 2004. Et la tendance est à la hausse.
Il y a un an, le Théâtre national de Prague sortait d'une crise artistique qui a abouti au départ de son directeur, Daniel Vojak, et à la mise en place d'une nouvelle équipe de direction. Ce lundi, le directeur actuel, Andrzej Czerny, et son équipe ont présenté à la presse le répertoire et les ambitions artistiques du théâtre pour la saison 2008-2009. Václav Richter.
Le Théâtre national de Prague, qui est le premier établissement théâtral du pays, abrite trois ensembles, l'opéra, le théâtre dramatique et le ballet. L'année dernière, il a accueilli 397 000 spectateurs. Pour la saison qui commencera en septembre, il présentera une soixantaine de productions, dont 16 premières. Selon le directeur Andrzej Czerny, le théâtre prépare un retour aux sources et met l'accent sur les œuvres de grands auteurs tchèques du passé.
Já si myslím, že právě proto, že jsme v Národním divadle, tak my jsme povinni.
Je pense que le fait même d'être membre du Théâtre National nous oblige à cultiver le répertoire classique. Je me réjouis donc à l'idée que la saison 2008-2009 commencera par la première de La fiancée vendue de Bedřich Smetana et s'achèverait par une nouvelle production de Rusalka Londine d'Antonín Dvořák. Pour moi, ces deux opéras représentent justement ce patrimoine artistique que le Théâtre National ne doit pas perdre de vue et le proposer toujours à ses spectateurs.
L'ensemble de l'opéra du Théâtre National prépare 6 premières, dont La Finta Giardiniera, une œuvre de jeunesse de Mozart, Eugène Onegin de Tchaïkovski et l'affaire Makropoulos, drame lyrique de Leoš Janáček basé sur une pièce de théâtre de Karel Čapek. La production de l'opéra Rinaldo de Handel sera confiée à une équipe française dirigée par la jeune metteuse en scène Louise Moati. Le chef de l'opéra du Théâtre National, Jiří Hejman, a présenté à la presse aussi un autre projet artistique préparé pour la prochaine saison.
K novému nastudování nás jednak přimělo jednání s festivalem.
La nouvelle production de La fiancée vendue est due à notre collaboration avec le festival de Litomyšl, car c'est une œuvre bien choisie pour fêter la 50e édition du festival et à la possibilité d'engager pour cette production le chef d'orchestre Andrzej Lenart. Il est très important pour nous de pouvoir confronter cet excellent artiste à ce chef-d'œuvre de Smetana. Notre objectif est de créer une production grand public ancrée dans la tradition qui évoquera la vie disparue de la campagne tchèque. Pour la première fois dans l'histoire du Théâtre National, la mise en scène de cet opéra a été confiée à une femme, Magdalena Švecová, et ce sera donc aussi un aspect intéressant de cette production.
Pour le chef de l'ensemble de théâtre dramatique, Michal Dočekal, le répertoire classique représente un certain problème.
La tension que nous prêtons au répertoire dramatique tchèque du passé n'est pas limitée à l'année 1914, mais s'étend aussi sur la première moitié du XXe siècle. Il est cependant très difficile de trouver des pièces de cette période et les metteurs en scène de qualité qui manifestent de l'intérêt pour ce genre de répertoire. Le débat que nous menons sur le théâtre des auteurs comme Karel Čapek, František Langer et Viktor Dík s'avère difficile et n'aboutit pas pour le moment à une nouvelle production.
Dans la saison 2008-2009, le Théâtre National invitera aussi des artistes étrangers, dont le célèbre ensemble Les Arts Florissants de William Christie, qui présentera en version concert l'opéra ballet de Jean-Philippe Rameau, Les Indes Galantes.
C'était les faits événements en République tchèque. Notre programme se poursuit par un dossier très intéressant.
La République tchèque au quotidien. Alexis Rosenzweig.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'écoute de cette nouvelle édition de La République tchèque au quotidien, une émission dans laquelle nous allons parler aujourd'hui de tourisme médical. Le tourisme médical, un phénomène bien connu qui attire dans des pays où les coûts sont réduits, des patients venus de contrées où les frais de santé sont largement supérieurs. Un phénomène connu en Europe et notamment en République tchèque où de plus en plus de patients viennent se faire soigner les dents ou ont recours à la chirurgie esthétique dans des cliniques privées réputés pour leur prix et pour leur qualité. Nouvelles dents, nouveaux nez, nouveaux seins, ça on le savait. Ce qu'on savait moins en revanche, c'est que des couples étrangers viennent en République tchèque pour concevoir des bébés éprouvettes. Direction Zlín, en Moravie, une ville qui, bien qu'elle ne s'appelle plus Gottwaldov, est toujours aussi lugubre.
Il y a la pièce où les hommes donnent des spermes, on le prend d'ici, on le fait l'analyse ici. Parce que ici, c'est seulement la température 37 degrés.
Elena est infirmière dans la clinique de reproduction assistée de Zlin, une clinique où se rendent de plus en plus de couples étrangers. Le mois dernier, on a fêté la naissance du 650e enfant conçu ici. Les patients viennent d'Allemagne, de France, des États-Unis, de Russie ou encore d'Israël. Ladislav Pilka, pionnier de la fécondation in vitro dans les années 80, est le médecin-chef de cette clinique privée.
Dans un bon nombre de pays voisins, le don d'ovocytes est interdit. Ici, la législation le permet. Et puis, dans les autres pays, il y a un manque cruel de donneuses. Notre but premier, c'est d'aider les couples infertiles. Bien sûr, il faut qu'on gagne de l'argent pour payer le personnel et le matériel, mais le but final, c'est la médecine. Nous avons de plus en plus de patients, mais l'avantage ici, c'est que les délais d'attente sont beaucoup plus courts. Ailleurs, on peut attendre plus d'un an, mais ici, le délai peut être de seulement un mois.
La législation tchèque est très permissive. Sont autorisés notamment le don de gamètes, le don double ovule spermatozoïde, la congélation de cellules ou leur transfert immédiat, la micro-injection, la culture embryonnaire, le dépistage génétique avant implantation. Pour ce qui est du don d'ovules ou d'ovocytes, la clinique passe des annonces dans la ville, entre autres à l'université de Zlin. La loi interdit à une jeune fille de vendre ses ovocytes, mais elle touche une indemnité qui s'élève à 15 000 couronnes, environ 600 euros, une somme qui correspond à un salaire moyen dans cette région. Dans la base de données de la clinique de Zlin, il y a près de 80 donneuses en ce moment. Evelyne est une Française de 46 ans qui est venue le mois dernier avec son mari. Nous l'avons jointe en région parisienne par téléphone.
Demande toute bête quoi, savoir comment moi je suis, puisqu'en fait c'est le sperme de mon mari mais l'ovule d'une autre dame, donc pour qu'il y ait un peu plus de similitude dans la ressemblance si ça marche. Donc j'ai dit que j'étais brune, aux yeux marrons, 1m63, etc. Enfin vous voyez les renseignements caractéristiques de mon physique. Je m'en suis remis complètement aux professionnels qui sont sur place, en me disant que si on me demandait quelle taille, quel poids, quelle couleur d'yeux, de cheveux, etc., que c'était pas comme ça pour rien, que c'était effectivement pour essayer de trouver quelqu'un d'un peu similaire, pas Adriana Grande par exemple, vous voyez.
Et lorsque nous avons parlé avec Evelyne, elle venait de rentrer en France et ne savait pas encore si elle était enceinte. Après une tentative infructueuse en Espagne, elle a décidé d'aller en Moravie avec son mari.
Venir en République tchèque, eh bien écoutez, c'est finalement un peu par hasard. Nous sommes allés sur Internet. Et là, nous sommes tombés sur l'association Maya et on a vu qu'il y avait un partenariat avec la Tchéquie. Nous sommes plusieurs centaines maintenant de Français, enfin très très nombreuses. Hein. Donc je suis dans un premier temps allée surfer un petit peu sur les postes qu'on voyait les dames ou les messieurs. Hein. Et qui avait déjà des expériences. Et puis la première tentative pour nous a été faite la première de Tchéquie, hein, j'entends bien, a été faite en juillet. Et nous nous sommes inscrits, je crois, au mois d'avril ou au mois de mai, donc 2 mois après. Hein. Donc ça a été très rapide.
Alors qu'est-ce qui a fait que vous êtes décidé pour la République tchèque?
Alors, écoutez, la République tchèque, tout simplement parce que nous sommes tombés sur le site Maya, qui est un partenariat aussi avec Eugène en Espagne, dont nous étions mécontents. En allant surfer donc sur ce forum, nous nous sommes aperçus que nous n'étions pas les seuls à être mécontents de Barcelone. Et par contre, la Tchéquie commençait à avoir quelques patientes et qui avaient l'air très très contents des prestations qui étaient sur place. C'est à 2 heures de France. L'avion coûte moins cher que pour aller en Espagne. En plus, ça fait partie des critères aussi. Le prix coûte nettement moins cher que pour l'Espagne en termes de transfert, enfin de don d'ovocytes. Hein. Et les hôtels coûtent moins cher. Enfin, tout coûte moins cher.
Des tarifs effectivement tellement bon marché comparés à ceux en vigueur ailleurs que des sites internet américains proposent même des formules vacances fécondation in vitro, avec en option des visites touristiques et des cures dans la station thermale de Luhachovice à une vingtaine de kilomètres de Zlin. Le tout pour environ 10 000 dollars. Alors comment la clinique de Zlin peut se permettre de pratiquer de tels tarifs? Réponse avec son directeur, le docteur Rumpik.
U nás je pořád ještě velice levná pracovní síla ve srovnání s bývalými zeměmi západní Evropy.
Ici la main d'œuvre est toujours très bon marché comparé aux pays de l'Ouest, ce qui nous permet de pratiquer ces tarifs. Les médicaments et la préparation coûtent la même chose partout dans le monde, mais le travail des docteurs et des chercheurs est moins cher ici, ce qui entraîne un prix total inférieur. Par exemple, par rapport aux États-Unis, cela coûte 3 fois plus cher. Si vous enlevez le prix du billet d'avion et le logement ici, alors le prix ici correspond à un tiers du prix américain, l'un des endroits du monde où ça coûte le plus cher.
Et les affaires marchent tellement bien pour la clinique de Zlin, qui affiche un taux de réussite supérieur à 50%, qu'une filiale vient d'être ouverte à Brno pour permettre aux patients de s'y rendre plus facilement depuis l'aéroport de Prague. Et c'est ainsi que se termine cette nouvelle édition de La République tchèque au quotidien, consacrée cette semaine au tourisme fécondation in vitro en République tchèque. Merci à toutes et à tous de votre attention. N'oubliez pas que vous pouvez réécouter ou relire cette émission sur notre site internet. L'adresse, je vous la redonne, c'est le www.radio.cz, www.radio.cz. Bonne journée ou bonne soirée à toutes et à tous, où que vous soyez dans le monde.
Et c'est par ce reportage signé Alexis Rosenzweig que se termine le programme en français de Radio Prague d'aujourd'hui. Au revoir, naschledanou.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0800 hours UTC on 7345 and 9860 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, at 1800 hours on 5930 kHz, and at 2100 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1130 hours UTC on 11640 kHz. In Central Europe, you can tune in at 1330 hours UTC at 9750 kHz, or every Friday and Saturday on DRM. Listeners in West Africa can listen to Radio Prague at 1000 hours UTC on 21745 kHz, and at 1700 hours on 15710 kHz, and at 2230 hours on 9435 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours UTC on 15710 kHz or at 2230 hours on 9435 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1130 hours UTC on 17545 kHz and at 0430 hours on 9890 kHz. In the Middle East, listen at 1130 hours UTC on 17545 kHz. In Asia, tune in at 1800 hours UTC on 9400 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 1000 hours UTC on 15710 kHz, at 1400 hours on 11600 kHz, and at 2100 hours on 9430 kHz. In Southwest Asia, listen at 0430 hours UTC on 9890 kHz. In East Asia, listen at 2100 hours UTC on 9430 kHz. Listeners in Australia can listen at 1800 hours UTC on 9400 kHz and at 2100 hours on 9430 kHz.